Bonjour Jérôme.
Bonjour Thomas.
Alors tu as décidé également de t'intéresser à un rapport politique, à croire que c'est la saison, tombent les feuilles et fleurissent les rapports en quelque sorte. Mais ce n'est pas au rapport Jospin que tu t'es intéressé, ni au rapport Gallois dont nous parlions lors du dernier numéro du Grand Journal Politique, et qui a propulsé le mot « compétitivité » comme le mot de cette rentrée, à égalité cependant avec le mot « couac » qui l'eût cru. Vivement que les mots que nous retenions soient croissance, emploi et solidarité. Et avant que vous me taxiez de démagogie facile, laissez-moi vous dire qu'en cette approche de l'hiver, on peut bien rêver. Ou peut-être, vivement que le mot que nous retenions tous, jusqu'à la saturation, soit le mot fédéralisme, qui sait, puisque dans un rapport qu'ils ont récemment signé et qui a eu beaucoup moins de visibilité médiatique, il faut le dire, que les deux que j'évoquais à l'instant, Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, plaident pour une Europe fédérale, n'est-ce pas Jérôme ?
Tout à fait Thomas. Malgré en effet la pointure de ces deux signataires, c'est un texte qui aura finalement rencontré assez peu d'écho, dans la presse aussi bien que dans la classe politique, en France aussi bien que dans d'autres pays européens. Je veux parler du manifeste pour une révolution post-nationale en Europe, intitulé « Debout l'Europe », de Daniel Cohn-Bendit, co-président du groupe écologiste au Parlement européen, et de Guy Verhofstadt, président au même Parlement de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe et ancien Premier ministre de Belgique. Il faut dire que ce livre apparaît quelque part en décalage idéologique avec l'évolution actuelle des mentalités. Les discours protectionnistes et identitaires ont aujourd'hui le vent en poupe, comme souvent en temps de crise. Et jamais il n'y a eu aussi peu d'hommes politiques pro-européens depuis un demi-siècle. La grande question qui se pose aujourd'hui n'est pas, selon nos auteurs, de démondialiser, mais de peser de tout notre poids sur la démondialisation, qui est une réalité à prendre en compte, qu'on le veuille ou non. Il ne s'agit pas non plus de militer pour un grand soir fédéral, qui n'aura de toute façon pas lieu, mais d'enclencher un processus susceptible d'y mener. Nos auteurs partent d'un même constat. L'Europe est une ruche hétérogène, ce qui est une bonne chose, l'union ne supposant pas l'uniformité. Mais elle traverse une crise qu'il n'hésite pas à qualifier d'existentielle. Le projet européen n'a été soumis à une telle pression, ni aussi ouvertement remis en question. Une crise de l'Union européenne qui est due à celle de la zone euro. Cette crise était prévisible, allez lire, l'erreur capitale des inventeurs et fondateurs de l'euro étant de ne pas s'être entendu dès le départ sur les contraintes et les répartitions des charges et sur une politique économique et financière intégrée. La seconde cause est une crise de confiance. Crise de confiance entre États membres, déjà. Les grands pays de l'Union ayant publiquement affiché leur réticence à secourir les États membres en difficulté. Crise de confiance entre les citoyens de l'Europe et la politique européenne ensuite. Pour nos auteurs, nous sommes parvenus à un moment critique de l'histoire européenne. Il serait moins 5 pour l'Europe, selon leur expression, et nous serions aujourd'hui à la croisée des chemins, à l'heure du sursaut. L'Europe des nations est à leurs yeux une relique du passé, non un viatique pour l'avenir. Soit un État fédéral européen, une Europe politique post-nationale, voit le jour, soit la monnaie unique disparaîtra, ce qui signerait l'arrêt de mort de l'Union européenne. Il n'y a désormais plus de compromis possible entre la fondation des États-Unis d'Europe et l'émiettement national. Or, la première option est le seul moyen de faire face aux géants comme la Chine et les États-Unis, d'Amérique cette fois, ou aux puissances émergentes. S'agripper au concept suranné d'État-nation, c'est se tromper d'ennemi. Cohn-Bendit et Verhofstadt mettent le doigt sur le principal mensonge de la rhétorique nationaliste. Jamais les frontières des peuples et celles des États ne coïncident. Et encore moins aujourd'hui qu'hier. Le défaitisme est un piège. A contrario, il est impossible d'oblitérer le niveau de bien-être auquel, depuis 60 ans, la construction européenne nous a porté. Je les cite. « Songeons à ce que nous devons à l'Union européenne, pour prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Pour l'Europe, la première moitié du XXe siècle correspond aux 50 années les plus sanglantes de son histoire. » Elle a été le théâtre de deux guerres mondiales. Au cours de cette période, l'Europe a accouché du fascisme, du nazisme et du communisme. Un trident démoniaque qui tenait tout le continent dans ses griffes et qui a failli faire périr notre civilisation. Quel contraste avec l'Europe pacifique, libre, prospère, sociale de la seconde moitié du siècle. Une Europe qui n'avait jamais connu une telle sécurité juridique. Cet âge d'or porte un nom, l'Union européenne. Il faudrait donc aujourd'hui passer à l'offensive. Le statu quo n'est plus une solution viable. Il faudrait comprendre que seule l'Europe est en mesure d'apporter des solutions. Or, nos auteurs ne se cantonnent pas à un constat pessimiste, ils proposent des solutions d'envergure européenne. Ce qui frappe d'emblée le lecteur, c'est la diversité de nature de ces différentes propositions. Celles-ci peuvent être purement symboliques, mais on sait que le symbole a sa valeur et que, sans la fierté d'être européen, il n'y a pas d'avancée possible. Il s'agirait par exemple simplement de se souvenir des personnes qui ont bâti ou incarné l'Europe, de mettre leur nom et leur visage sur nos billets en euros, plutôt que ces chimères architecturales qui ne représentent même pas les trésors que nous pouvons trouver d'un bout à l'autre de ce vieux continent. D'oser penser européen. Être européen, écrivent-ils, c'est notre nom de famille, notre nationalité et notre prénom. Un européen a une passion pour sa ville, un attachement à sa région, un amour pour son pays, sans que ses ancrages n'altèrent pour autant sa profonde conviction européenne. D'autres solutions sont de nature institutionnelle. Créer une grande union fédérale avec des institutions européennes supranationales qui s'assument comme telles et soient habilitées à définir la politique de l'ensemble de la zone euro. Transformer la Commission européenne en un véritable gouvernement européen exécutif, encadré par un Parlement européen aux compétences renforcées, dont le droit d'initiative législative. Le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, n'étant plus capable d'assumer ce rôle, ce n'est plus que le syndicat des intérêts nationaux. Les auteurs proposent également que le président de la Commission soit élu directement par les citoyens, ou à minima par ce nouveau Parlement européen devenu Assemblée constituante. Pour cela, ils proposent qu'un nouveau projet de constitution européenne, plus bref, plus clair, soit proposé par référendum dans chaque État membre, à la majorité des citoyens de chaque État et à la majorité des États membres de l'Union. Chaque citoyen pourrait ainsi s'exprimer en votant sur ce projet d'envergure européenne et les États qui l'auraient refusé ne seraient pas compris dans ce noyau fédéral européen. À condition, bien sûr, que ce ne soit pas l'Allemagne ou la France dont l'absence pourrait porter un coup fatal. Mais nos auteurs ne se leurrent pas et concèdent volontiers qu'il s'agirait seulement là du premier pas fondateur d'une autre politique, marquée par une troisième série de propositions ouvertement structurelles. La transformation du fonds d'urgence en véritable fonds monétaire européen, à l'image du fonds monétaire international, la création d'un trésor européen pouvant émettre des euro-obligations, une politique étrangère reposant sur une diplomatie et une armée européenne autonome, seul moyen de faire entendre une unisson et non la cacophonie actuelle, et enfin, à terme, la création d'un passeport européen et d'une citoyenneté européenne. Autant dire que nous sommes encore loin de tout cela. Mais c'est souvent dans les crises que sont nés les projets les plus fous, et des cendres encore chaudes de deux guerres sans merci que l'Union européenne a pu se construire. Alors, se manifeste, est-ce seulement deux voix de plus criant dans le désert ? Ou bien la crise que nous traversons actuellement sera-t-elle l'occasion d'un second souffle pour l'Europe ? Qui vivra, verra.
Merci Jérôme.